Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue au récit insolite de la Bible avec Sébastien Daune, bibliste. Il y a déjà un an, j'ai écrit un livre sur les récits insolites de la Bible qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn ?» Et on m'a demandé de faire une série d'émissions de radio sur le sujet. Alors, lors du dernier épisode, je vous rappelle, on a parlé du livre de Jonas. Aujourd'hui, on va s'orienter vers un autre livre particulier de l'Ancien Testament, le livre de Job. On va y découvrir quelque chose qui ressemble à une partie de poker entre Dieu et Satan. C'est drôle, on va les voir presque parier sur la fidélité de Job lorsqu'il subira toutes sortes de malheurs. Avec le livre de Job, on entre dans l'éternelle question de la souffrance injuste. C'est donc le menu pour cette émission. Comme je le disais lors de l'introduction, la semaine dernière, on a abordé le livre du prophète Jonas. J'ai reçu quelques courriels et certains posaient la question de l'historicité de ce récit. Je vous en lis un qui provient de Mathieu de Montréal. Bonjour Monsieur Daune, merci pour votre émission instructive. Vous avez parlé de l'histoire de Jonas. Je vous avoue que j'ai de la difficulté à croire à cette histoire. Est-ce qu'il faut la comprendre comme un texte historique? Sinon, quelle est la valeur de ce récit-là? Excellente question. Merci de l'avoir soumise. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui devaient se la poser. Parce qu'on voit ça quand on lit le livre de Jonas, on voit tout de suite toutes sortes d'éléments merveilleux. Entre autres, surtout le séjour dans le ventre d'un gros poisson qui nous semble invraisemblable, ou la plante que Dieu va faire pousser instantanément ou mourir dans le désert. C'est des éléments qui nous mettent la puce à l'oreille qu'il y a peut-être un problème d'historicité derrière ce récit-là. En tout cas, ça semble difficile de dire que ça s'est arrivé exactement comme ça. De plus, bon, il y a d'autres indices qui nous disent que l'historicité cause problème. L'auteur précise jamais c'est à quelle époque que cette histoire se situe. Il y a peu de détails qui nous montrent où on est dans l'histoire d'Israël, par exemple. Et les autres textes bibliques qui parlent de l'histoire d'Israël vont jamais parler du livre de Jonas et nous dire « Ah, c'est à cette époque-là que Jonas a vécu et a fait son ministère à Ninive. » Donc, il y a peu d'indices qui nous montrent cette historicité-là. Surtout que quand on prend le temps de regarder c'est quoi le genre littéraire, on voit que ça se prête pas vraiment à ça, que le but de ce texte-là, c'était pas de nous dire qu'est-ce qu'il y a d'historique. Vous savez, les genres littéraires, ça fait toute une différence. On lit pas le journal de demain matin comme on va lire un poème de Neil Gaiman. Le poème va essayer d'évoquer, de nous faire comprendre une réalité, mais de façon poétique, alors que le journal va essayer de décrire les événements de la façon la plus objective possible. Ici, dans le livre de Jonas, qu'on a lu la semaine dernière, on est dans une sorte de légende, une espèce de conte biblique où l'historicité du récit est peu importante. Ce qui est important, c'est la morale qui va s'y dégager. Puis, par exemple, on a vu que le texte suggère que Dieu est intéressé par le salut de l'humanité entière. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il s'occupe d'une ville qui s'appelle Ninive, qui est en dehors d'Israël. Le Dieu de l'histoire de Jonas, c'est un Dieu qui veut sauver tout le monde, tous les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Et c'est pas toujours fréquent, ça, dans l'Ancien Testament, d'avoir des textes qui parlent comme ça. Donc, moi, je pense que c'est ça l'intérêt du livre de Jonas. Plus que, est-ce qu'il y a un prophète qui s'appelait Jonas qui a véritablement fait tout ce qui est décrit dans ce livre-là. Donc, en résumé, ce texte-là porte des vérités, on pourrait dire des vérités théologiques, des vérités sur Dieu, mais historiquement, il y a très peu de chances que ça soit fondé sur quelque chose qui se soit passé tel que c'est décrit. Alors, bon, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, c'est ma réflexion sur le sujet. Merci à Mathieu pour cette question-là. Je pense que ça éclaire un peu la réflexion. N'hésitez pas à faire comme lui. Contactez-nous. Notre courriel, c'est le courriel de la station auditoire@radiovm.com. auditoire@radiovm.com pour me poser vos questions, pour me donner vos commentaires sur cette série d'émissions-là. Alors, après un peu de musique, on entre dans notre livre biblique du jour, un livre un peu étrange, on va voir le livre de Job. « vous écoutez les récits insolites de la Bible avec Sébastien Dawn. Le livre de Job est l'un des plus intéressants de la Bible. Il explore la question de la relation d'une personne en désarroi avec son Dieu. Je dis que c'est une des plus intéressants, je ne suis pas le seul. Récemment, j'avais vu dans la presse, il y avait les 100 livres que les lecteurs de la presse préféraient. Et dans cette liste-là, il y avait le livre de Job, un des rares livres bibliques qui s'y trouvait dans cette liste. Alors, dans le livre de Job, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va trouver deux parties au livre. Il y a deux rédacteurs, deux personnes qui écrivent ce livre-là, qui ont une façon d'écrire très différente et qui offrent une interprétation très différente des malheurs de Job. La première partie du livre va situer l'origine des problèmes de Job dans une espèce d'échange entre Dieu et ce qui va être appelé dans le texte l'adversaire. On va voir que cet adversaire-là, c'est une autre façon de traduire le mot hébreu « Satan », alors entre Dieu et Satan. On écoute ce texte-là, c'est le début du livre de Job, livre de Job chapitre 1, les versets 6 à 22. On écoute ça.
« Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu? » « De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tous ses biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Le jour advint où ses fils et ses filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leur frère aîné. Un messager arriva auprès de Job et dit, « Les bœufs étaient à labourer et les ânesses paissaient auprès d'eux. Une razzia de Sabéens les a enlevés en massacrant tes serviteurs. Seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint qui disait, « Un feu du Seigneur est tombé du ciel, brûlant moutons et serviteurs. Il les a consumés, et seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint qui disait, « Des Chaldéens formant trois bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés en massacrant tes serviteurs. Seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint qui disait, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leur frère aîné lorsqu'un grand vent venu d'au-delà du désert a frappé les quatre coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Alors Job se leva. Il déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta à terre, adora et dit, « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas. Il n'imputa rien d'indigne à Dieu.
Vous voyez pourquoi je parlais tout à l'heure d'une espèce de partie de poker entre Satan et Dieu qui essaie de voir est-ce que Job va être fidèle ou non. Alors bon, ça continue, il va y avoir une deuxième ronde de négociations entre l'adversaire et Dieu. On va poursuivre la lecture maintenant au chapitre 2, les versets 4 à 8.
« Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, il est en ton pouvoir, respecte seulement sa vie. » Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter et il s'installa parmi les cendres.
Quand on entend cette histoire, ce qui nous étonne le plus dans cette première partie du livre de Job, c'est que Dieu discute avec l'adversaire du sort d'un humain qui va devenir une espèce de cobaye dans leur expérience, dans leur pari. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un lien à faire entre l'adversaire et Satan. Qui est cet adversaire-là? Le début du récit est situé dans la cour céleste. On est avec Dieu et sa cour. On voit Dieu qui est là, entouré des fils de Dieu, on entend parler d'eux, et qui sont comme des espèces d'anges. Et l'adversaire, qu'est-ce que cet adversaire? Les fils de Dieu, bon, eux sont mentionnés dans d'autres endroits dans l'Ancien Testament. Il y a toute une liste, je vous épargne ça. Ils seraient des espèces de puissances cosmiques divinisées par les païens, subordonnées à Dieu ou des anges. L'adversaire, lui, on traduit souvent « adversaire », c'est le cas de la traduction qu'on utilise, la « tob », mais le mot hébreu derrière ça, c'est « Satan ». Alors, on pourrait traduire aussi « Satan », sauf que le problème, c'est pas juste une entité ou, comme on pourrait le croire, là, qui est celle qui résume toutes les forces du mal. Là. C'est pas nécessairement ce « Satan-là » qu'on a en tête qui est dans le texte. Le mot hébreu « Satan », c'est d'abord et avant tout un mot qu'on peut traduire par « l'adversaire ». Disons que moi, je m'opposerais à votre projet à vous, ben je serais votre Satan, je serais votre adversaire. C'est comme un nom commun. Au lieu d'être un nom propre comme on l'a en tête aujourd'hui, Satan, mais c'est aussi un nom commun à cette époque-là. Alors, à quelque part, l'adversaire de Dieu dans ce texte-là, c'est quelqu'un qui, dans la cour céleste, s'oppose au plan du Seigneur. Bon, avec le temps, cette fonction d'opposition à Dieu va se personnaliser et va devenir une espèce de nom propre de l'esprit qui incarne le mal. Là. Et on va voir ça dans les textes plus tardifs de la Bible. Puis encore aujourd'hui, c'est quand on parle de Satan, c'est ça qu'on a en tête. Mais dans ce texte-là, est-ce que c'est une entité du mal en particulier? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue le rôle de l'adversaire de Dieu? Bon, c'est un peu des deux. Une chose qu'il faut savoir pour bien comprendre ce récit-là, c'est la théologie de la rétribution. Dans le début et la fin du livre de Job, l'auteur est pris avec une théologie de la rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est quelque chose, à l'époque où on écrit l'Ancien Testament, les Juifs croyaient qu'il n'y avait pratiquement rien après la mort. Quand on mourait, bon, c'était le Sheol, le lieu du repos des morts. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. On était dans notre tombeau. Dieu, c'était lors de la vie sur terre qu'on pouvait être avec lui. Le paradis et tout ça, c'est chez les Grecs. On n'avait pas encore pensé à ça. Il n'y avait pas de résurrection non plus. Dans une bonne partie de l'Ancien Testament, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Sheol, c'est rien. Dieu exerce donc son jugement sur la terre. Les justes sont récompensés par des femmes, des enfants, des richesses en abondance, toutes sortes de choses, par une longue vie, alors que les infidèles vont être punis sur terre par la stérilité, la pauvreté, la maladie, la mort, toutes ces choses-là. Alors donc, c'est sur terre que Dieu exerce son jugement. C'est ça la rétribution, la théologie de la rétribution. Au départ, Job est béni de Dieu. Il a une grande famille, beaucoup de richesses, parce qu'il suit les commandements de Dieu, c'est marqué dans le texte, il offre les sacrifices requis. C'est un homme très fidèle. Il est tellement fidèle que Dieu va s'en vanter auprès de l'adversaire. Si bien que lui va parier que Job va maudire Dieu si Dieu lui retire sa bénédiction. Alors, s'il perd toute sa richesse et tout ça. Donc, l'adversaire fait en sorte que Job va perdre son troupeau, ses bœufs, moutons, chameaux, ses serviteurs, ses fils, ses filles, et finalement, il va même perdre la santé. Puisqu'il est impur par sa maladie, Job va aller s'asseoir au dépotoir, là où il y a de la cendre et de la vaisselle cassée. C'est là où on le retrouve. Ça, c'est la première partie du livre de Job. Après ça, il va avoir le deuxième rédacteur qui va continuer cette écriture-là. Il y a vraiment un changement majeur dans le texte. Comment qu'on le voit? C'est qu'il y a une espèce de long poème qui commence. Un poème, quand on le regarde en hébreu, va avoir une certaine rime et une certaine façon de s'écrire très différente de l'introduction qui n'était pas du tout poétique. Alors, ça serait l'œuvre d'un autre auteur qui, lui, au contraire, va contester la théologie de la rétribution. Pour lui, ça n'a pas de sens que Dieu récompense sur terre par des richesses en abondance et tout ça, et que la pauvreté, la maladie, la mort, la stérilité seraient des signes d'infidélité. Pour ce deuxième auteur-là, ça n'a pas de sens. Puis on le voit nous autres aussi, dans notre vie de tous les jours, c'est quand on fait quelque chose qui contrevient aux lois de Dieu, on n'est pas tout de suite frappé du malheur, là. Alors on voit qu'il y a quelque chose, il y a une façon de contester cette théologie de la rétribution-là. Et la deuxième partie du livre de Job va le faire à travers des questions Il y a plusieurs personnes qui vont venir questionner Job, mais Job lui-même, il va avoir ses propres questions qu'il va poser. Il va les poser à Dieu. Comment ça se fait que des personnes qui sont justes depuis toujours comme lui subissent tout à coup des malheurs, des souffrances? Comment comprendre cette théologie de la rétribution qui semble pas marcher quand il y a un juste qui vit une injustice? Ça fonctionne plus. Alors, le deuxième rédacteur est indigné, comme nous aussi, devant une souffrance. Puis, surtout, quand on remet ça dans le texte, puis on voit le pari au départ entre Dieu et l'adversaire, on se dit, ça n'a aucun sens qu'il y ait quelqu'un qui souffre à cause de ce pari-là. L'histoire de Job va donc se poursuivre avec des amis qui vont venir, des amis entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas les meilleurs amis au monde, qui croient, eux, à la théologie de la rétribution. Puis, ils vont faire le raisonnement suivant. Si Dieu punit celui qui a fait une faute, ben Job doit avoir fait quelque chose de condamnable puisqu'il a tout perdu. Job, lui, il comprend pas. Il comprend rien parce qu'il sait qu'il a toujours été fidèle à la loi du Seigneur. Le système de rétribution fonctionne donc pas puisqu'un juste souffre. Sa souffrance est physique, mais il y a aussi une souffrance morale, spirituelle à travers ça. Là. À quelque part, il souffre de façon théologique. Sa façon de comprendre Dieu colle plus du tout avec sa propre réalité. Puis dans la suite du récit, Job va finir par accuser Dieu. Il va lui dire « Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute? Au puissant de me répondre, voilà mon dernier mot. » Ça, c'est Job, chapitre 31, verset 35. Alors, il demande au puissant, à Dieu, dans le fond, de venir l'écouter. Et il va avoir une espèce de procès qui va s'ouvrir. Et dans tout ça, Dieu va finir par avoir la réponse finale. Et je vous le cite, c'est Job, chapitre 38, les versets 1 à 4. « Le Seigneur répondit à Job du sein de l'ouragan et dit « Qui est celui qui dénigre la providence par des discours insensés? Ceins donc tes reins, comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? » C'était Job, chapitre 38, les versets 1 à 4. À quelque part, Dieu lui dit, « Tu peux pas comprendre ma perspective à moi. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Puis là, il va continuer. « Aucun être humain était là lorsque j'ai... fait les astres, le ciel, la terre, tout ce que tu connais, aucun être humain peut entrer en contact avec la vision de Dieu de sa création. C'est une espèce d'avertissement qui vaut aussi pour nous, pour les lecteurs du livre de Job. Hein. Il y a certains grands mystères dans la vie, tels que la souffrance, tels que la mort, qui restent sans réponse encore aujourd'hui. Seul Dieu le sait. C'est lui l'unique créateur. Il a sa propre perspective et on ne peut pas vraiment percer ce mystère-là. Bon, comment se termine l'histoire de Job? Vous pouvez le lire par vous-même, un livre fascinant, mais je vais vous le dire. On va revenir au premier rédacteur, celui qui avait écrit l'introduction avec l'espèce de pari entre Dieu et Satan, bien, il va revenir à la fin. Alors, après le poème, bien, le rédacteur du début, ça va être le même que le rédacteur de la fin, qui lui aussi va, comme on le sait, il croit à la rétribution. Ça fait qu'il va essayer de reprendre sa doctrine de rétribution, puis essayer de remontrer que finalement, oui, ça marche encore, sa rétribution. Alors, Job, qui avait tout perdu, bien, finalement, après cela, je vous lis la fin de Job, « Après cela, Job vécut encore 140 ans et il put voir ses enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants jusqu'à la quatrième génération. » Job, chapitre 42, verset 16. Donc, il va recevoir tout ce qu'il avait en double et il va avoir d'autres enfants. Il va être récompensé par une longue vie parce que finalement, Dieu va lui dire qu'il ne l'a pas maudit, il est resté fidèle. Donc, il lui redonne tout ce qu'il avait et même plus. On peut donc conclure de cette histoire que Job, ben, ça ressemble un peu à l'histoire du peuple d'Israël. On peut penser à ça deux secondes. Israël, vous le savez, bon, il y a eu l'exil à Babylone qui a été très, très, très important. Ils ont perdu leur ville, leur temple, leur roi. Et ils sont en exil. Ils se demandent comment ça se fait qu'on souffre. Nous, on pensait qu'on était juste. On pensait qu'on était dans le droit chemin. Et finalement, non. On souffre. Est-ce que c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas correct? Ben, la doctrine de la rétribution va être remise en question pour une première fois avec ce livre de Job-là. Et cette remise en question va entraîner une nouvelle compréhension du rapport entre la vie et la mort. Puis finalement, ça va déboucher sur quelque chose de très important pour les chrétiens. La croyance en la résurrection va être possible parce qu'on va se dire, cette rétribution de Dieu, si ça ne se fait pas sur terre, quand est-ce que ça peut se faire? Et la réponse, ça va être au-delà de la mort. Vous êtes à l'intérieur des récits insolites de la Bible avec Sébastien Dhaune. Aujourd'hui, on parle du livre de Job. On a raconté grosso modo toute son histoire où Job perd tous ses biens suite à une espèce de pari entre l'adversaire, Satan et Dieu. Alors, bon, il perd tous ses biens et il va finir par les retrouver à la fin. Mais la grosse question, c'est la rétribution sur terre. Est-ce que Job a tout perdu parce qu'il avait fait quelque chose d'injuste ou non? La question, la réponse était non, effectivement. Il avait tout fait de façon correcte, mais il a perdu les choses pareilles. Il a vécu de la souffrance malgré lui qui était juste. Il a souffert quand même. Alors, la grande question du livre de Job, c'est la question du mal, de la souffrance. Puis on peut se la poser, nous, aujourd'hui. Comment est-ce qu'un Dieu, à la fois infiniment bon, infiniment puissant, peut permettre que le mal existe sur Terre? C'est la grande question qu'on se pose comme chrétien depuis très, très longtemps. Le livre de Job ne cherche pas nécessairement à répondre à la question de l'origine de la souffrance et du mal. Dans le fond, on ne le sait pas plus à la fin qu'au début de la lecture du livre. Pourquoi est-ce que Job souffre-t-il? Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on souffre? Le livre en dit rien. Bon, sauf le curieux pari entre Dieu et Satan, là. Mais bon, ce pari-là ressemble plus à une espèce de tour de passe-passe littéraire qu'une explication théologique réelle. Donc, on ne le sait pas suite à la lecture du livre de Job pourquoi on souffre. Mais à partir de ce livre, on peut cependant conclure qu'il n'y a pas de lien à faire entre nos souffrances, nos afflictions et le péché. C'est deux choses différentes. Le livre démolit la fameuse théologie de la rétribution qui était celle de l'époque. On retrouve cette théologie-là dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous rappelez ce passage-là. Il y a quelqu'un qui va poser la question à Jésus, qui va dire « Rabbi, qui a péché pour que lui soit né aveugle? Est-ce que c'est lui-même qui a péché l'aveugle ou ses parents? » Puis Jésus va répondre « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Ça, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 2 et 3. Alors, on voit qu'on se pose la question, on lit le péché avec la souffrance puis avec la maladie. Puis Jésus va dire « Non ». Par sa réponse, Jésus, il se situe contre la théologie de la rétribution. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va nous dire qu'il n'y a pas de lien entre le péché et les malheurs de la vie. Encore aujourd'hui, les éléments de cette théologie de rétribution vont apparaître spontanément, même dans notre discours quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des expressions comme « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au ciel pour que ça m'arrive? » Bon, des personnes qui disent ça, c'est la théologie de la rétribution. On se demande, bon, on a dû faire quelque chose de pas correct pour que Dieu nous punisse tout de suite, là. D'autres vont se demander, où était Dieu dans telle mort, dans telle souffrance, dans tel événement révoltant? Comment ça se fait que Dieu a permis ça? Elle lui demande d'intervenir directement pour arrêter ça. On demande à Dieu, viens, fais quelque chose. Puis, à notre grand désespoir, il intervient pas. Où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il intervient pas dans ces moments de souffrance, de difficulté? Mais ça va toujours rester une grande question. Dans le fond, il n'y a pas de réponse finale à tout ça. Mais moi, pour tenter de répondre à cette question-là, j'ai quand même une réflexion que je trouve intéressante et importante. C'est la réflexion à faire de l'expérience de la croix. Le Fils de Dieu, Jésus, a souffert lui-même. Il est mort crucifié. Dieu, ce n'est pas la cause de la souffrance humaine. Avec Jésus, Dieu y est sur la croix lui-même et il souffre avec nous. C'est quand même quelque chose de penser à ça. Quand on pense au rapport entre Dieu et la souffrance, Dieu n'est pas nécessairement dans la cause de la souffrance, puis il ne va pas nécessairement arrêter la souffrance. D'ailleurs, il n'arrête pas Jésus de souffrir sur la croix, même si Jésus va le demander, que cette coupe passe loin de moi. Non, il faut qu'il passe par là. Et à quelque part, ça montre que Dieu est solidaire de nos souffrances à nous. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut parler de façon chrétienne de la souffrance? Pensez-y. Vous pouvez même m'écrire pour me dire votre point de vue. On pourra en reparler la prochaine fois peut-être. De mon côté, en tout cas, la façon d'en parler, la meilleure, c'est de se rappeler que Jésus a souffert lui aussi et qu'il est mort, mais que sa mort, ce n'était pas la fin de l'histoire. En ressuscitant Jésus, Dieu nous montre que la vie est plus forte que la souffrance et la mort. Puis c'est vrai, même quand la souffrance et la mort sont au rendez-vous, ben c'est là où c'est important d'avoir cette espérance chrétienne. Ça reste une réalité difficile à vivre et à comprendre, mais je pense que c'est quelque chose d'important. « J'espère que cette exploration du livre de Job, cette réflexion sur la souffrance, vous a pas trop découragé. Bon, en tout cas, au contraire, moi, je pense que c'est en regardant les côtés les plus difficiles qu'on peut voir l'importance de l'espérance chrétienne. Si vous avez des commentaires, contactez-nous avec notre courriel auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on regarde un récit du Nouveau Testament qui porte aussi sur la mort, la souffrance. C'est la crucifixion de Jésus dans l'Évangile de Marc. Et on va centrer ça sur une parole, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Comme d'habitude, merci à Marie Laferrière, Alain Primeau et à chacun d'entre vous pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Daune. À la prochaine.